Ces tensions, tant internationales que françaises, nous allons les aborder avec l'invité de la deuxième heure, l'historien et anthropologue Emmanuel Todd. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous efforcez, Emmanuel Todd, de penser notre moment dans sa globalité. Vous tentez de peindre, comme le laissait entendre le sous-titre de votre dernier ouvrage paru en août dernier, une esquisse de l'histoire humaine. Et j'aimerais bien reprendre le titre même de cet ouvrage pour vous poser la première question. Où en sommes-nous? C'est une excellente question. Vous n'êtes pas géopolitologue, on le sait. Mais malgré tout, ce qui se passe sur la scène internationale, là, vous intéresse. On vous a entendu dans le journal. Vous êtes rassuré. Donc peut-être vous nous rassurez en même temps que vous l'êtes. J'espère en tout cas. Vous parlez d'une désescalade. J'aimerais quand même vous entendre sur ces différents pays qui sont en puissance. Parce que ces différents pays que sont la Russie, la Grande-Bretagne, peut-être un peu moins, tiens, mais quand même un peu, la France et les États-Unis, ils sont quand même dans votre livre. Qu'est-ce que ce qui est en train de se passer nous dit de ces puissances occidentales, ces démocraties occidentales en ce moment?
Oui, alors avant de dire, je vais dire de quel point de vue je parle. Je parle d'un point de vue a priori très favorable au monde anglo-américain. Pour qui pas, bon, je suis français, mais comme la France est prisonnière d'un euro qu'elle ne contrôle pas, et que son action ne compte plus beaucoup, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, ce qui me préoccupe actuellement, quand on lit la presse occidentale, pour moi, c'est que c'est une presse folle. C'est-à-dire que la vision du monde dans lequel on entretient les citoyens du monde occidental, la vision d'une Russie hyperpuissante, menaçante, tentaculaire, totalitaire, etc., est en fait une vision hallucinatoire.
C'est pas vrai, c'est pas le cas.
La Russie a un régime, ce que j'appelle une démocratie autoritaire, c'est-à-dire Poutine est élu, il y a un certain type de contrôle des organes de presse, mais les Russes sont informés. Tout le monde est d'accord sur le fait que les Russes sont favorables à la politique de Poutine. La Russie est un pays qui doit avoir un peu plus de 140 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 fois moins que le monde dit occidental. On parle de 10 fois moins. C'est un pays qui vient de retrouver un certain type de stabilité et de sécurité sociale. Le taux de suicide s'y effondre, le taux d'homicide s'y effondre. Un certain type de confiance sociale vient d'être rétabli en Russie. C'est la vraie raison de la popularité de Poutine. C'est simplement après la crise de la sortie du communisme, les Russes se sentent mieux, ils ont un avenir. La fécondité est un peu remontée, quoiqu'elle rebaisse un petit peu. Et ce pays est revenu, ça c'est vrai, il est revenu à parité sur le plan des technologies militaires. Ça, il ne fait aucun doute qu'ils ont fait une remontée technologique. Et de fait, la Russie se trouve être la seule force au monde qui puisse faire face, être une puissance d'équilibre face aux États-Unis sur le plan militaire.
D'où la crainte du moment.
Oui, mais évidemment, si on pense en termes d'équilibre des pouvoirs, si on respecte même la constitution américaine, on doit se dire, en fait, c'est mieux quand même. Parce que l'idée qu'un seul pays au monde serait capable de faire ce qu'il veut n'est pas un bon concept d'un point de vue libéral. Donc même si on n'aime pas la Russie, je veux dire, l'existence d'un pôle de stabilité devrait plutôt... Et d'un pôle de stabilité qui n'a pas de vraie capacité d'expansion, parce que c'est trop petit en termes de population, trop faible, on devrait prendre ça comme une bonne nouvelle. Et là, Poutine... La Russie, pas seulement Poutine, la Russie est un monstre, en plus qui est situé par rapport à des critères anthropologiques et familiaux qui ne doivent rien avoir à faire avec la géopolitique, comme le statut des homosexuels, ou des choses comme ça. Bon, il y a cette vision extrêmement négative de la Russie.
Et vous trouvez qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en Russie aujourd'hui.
Et donc toutes les interventions russes, tout ce que disent les Russes, est considéré comme la parole de Satan, du mensonge, etc. Et puis nous, on fait comme si on était normaux. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez... la vérité, c'est que le monde le plus occidental, c'est-à-dire les trois démocraties occidentales originelles, la France, l'Angleterre et les États-Unis, c'est-à-dire les nations qui ont construit la démocratie, en fait, peuvent être considérées comme dans un état de fébrilité absolument incroyable. C'est un monde en crise.
De quel point de vue?
La crise, c'est l'affrontement partout dans ces trois démocraties, une sorte de division sociale entre ce qu'on pourrait appeler un camp oligarchique et un camp populaire. J'essaie d'échapper à la dialectique fausse de l'élitisme et du populisme. Je viens de relire Thucydide.
Et vous avez des saines lectures.
Voilà. Et donc, non, pas relire, lire. Je l'avais jamais lu avant. C'est tout à fait des vantardises. Donc, il y a un parti oligarchique qui était par exemple représenté aux États-Unis par Clinton, un parti populaire qui est représenté par Trump. En France, on a en théorie une domination du parti oligarchique avec Macron, et puis un parti populaire, un camp populaire marginalisé, divisé entre Le Pen, Mélenchon. En Angleterre, il y a eu le Brexit, où en théorie, le parti populaire l'a emporté. Mais la vérité, c'est que dans ces trois démocraties, on est dans une situation d'instabilité et de schizophrénie. Le conflit n'est pas réglé. Bon. L'Angleterre va sortir de l'Europe. Le Brexit va se faire. Mais Theresa May n'était pas partisan du Brexit. La classe dirigeante anglaise reste très divisée. Les universités sont toujours favorables au Remain. Il reste un élément de schizophrénie dans la culture politique anglaise. Bon, les États-Unis, c'est encore plus simple. On ne sait plus qui est au pouvoir. On ne sait plus qui est au pouvoir.
C'est-à-dire
Trump est au pouvoir.
Oui, sait quand même. Il le rappelle assez souvent.
Oui, mais si vous voulez, les seuls véritables pouvoirs de Trump sont des pouvoirs externes. Alors, il peut faire sa politique commerciale. C'est une bizarrerie du système. Il est élu sur un programme protectionniste. Et puis, il peut appliquer son programme protectionniste. Il le fait. Et dans ce contexte, l'adversaire fondamental, c'est la Chine. Mais il a aussi des pouvoirs de type militaire. Et donc, ça donne ces actions.
Cette nuit, ces frappes contre la Syrie, avec ses alliés britanniques et français.
Oui, mais si vous voulez, en fait, on a l'impression que...
Une réaffirmation de la puissance, de ces trois puissances occidentales,
Todd. Non, honnêtement, là, moi, je suis un chercheur. En plus, j'ai perdu tous mes combats politiques, ce qui est très, très bien pour regarder les choses sereinement. Et je dois avouer que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Si vous voulez, quand Trump fait, de mon point de vue, des choses qui sont raisonnables, c'est-à-dire prendre des mesures protectionnistes, alors qu'on sait que la mortalité augmente aux États-Unis, dans les comtés dont l'industrie a été détruite par l'entrée de la Chine à l'OMC, il fait des choses raisonnables, et toute la presse du monde occidental dit qu'il est fou. Et puis, quand il fait des choses déraisonnables, c'est-à-dire quand il fait des tweets expliquant qu'il faut envoyer des tas de missiles sur la Syrie où la guerre est perdue et terminée, en fait. C'est pour rien, tout ça. Alors là, tout le monde fait comme si Trump était un type raisonnable. Mais en fait, je prends conscience d'une chose. C'est difficile pour moi d'admettre que le monde anglo-américain est quand même un peu à la ramasse, en fait. J'essayais de donner une interprétation raisonnable, rationnelle de la russophobie anglaise et américaine. Donc j'essayais de me dire, oui... toutes ces histoires de poison. Alors, je dois vous dire tout de suite que je ne sais pas.
Peut-être ne lisez-vous pas, d'ailleurs, la presse russophone, Emmanuel Todd. Ceux qui lisent la presse en Russie et qui peuvent nous la traduire nous disent que les Russes rendent bien cette russophobie aux Américains dans l'autre sens, comme si la tension était des deux côtés.
Oui, mais si vous voulez, quand vous avez. Je lis.
Pas pour rien qu'on parle
Je lis les trucs russes en français. Je lis les textes de Poutine ou de Lavrov et qu'il s'agisse des textes, ça c'est pas tellement rassurant non plus, c'est que qu'il s'agisse des textes de Poutine et de Lavrov ou des contacts que j'ai pu avoir, je vais assez régulièrement déjeuner jusqu'à très récemment à l'ambassade de Russie, le niveau intellectuel des diplomates russes et des dirigeants russes est très supérieur à celui des Occidentaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre la situation si vous ne voyez pas cette asymétrie. C'est-à-dire une interview de Lavrov ou une discussion, c'était Orlov, l'ambassadeur, je ne sais plus s'il a changé, à l'ambassade à Paris. C'est des gens qui sont très supérieurs intellectuellement aux gens du Quai d'Orsay.
Et alors, ça donne quoi, ça ?
Ça veut dire qu'ils parlent, ils ont une vision de l'histoire, une vision du monde, une vision de la Russie, une vision de l'équilibre des puissances, une vision du contrôle de soi. C'est ce qu'ils appellent professionnalisme. Hein, vous voyez, c'est ça qui est très inquiétant. C'est-à-dire que quand... quand vous sortez, en gros, si vous arrêtez de lire juste Le Monde et de croire ce qu'il y a dedans, vous vous dites, écoutez, où est la rationalité, où est l'intelligence, où est le contrôle de soi? C'est ça qui est important. Et vous voyez, et donc, je pense qu'on ne voit pas qu'on est dans un pays malade. Je voudrais terminer ce que je disais parce que j'étais dans une discussion où j'ai admis que mon interlocuteur avait raison contre moi. C'est-à-dire que j'essayais, donc je discutais avec mon copain Olivier Berruyer, le patron du site Les Crises, qui est d'ailleurs en procès avec Le Monde. Et j'essayais de lui trouver une interprétation rationnelle et cynique du comportement de Theresa May et de Trump. Donc je lui disais, Theresa May...
En général ou
dans... sur les Russes. Sur les Russes. Sur la russophobie, puisque c'est le problème hein, maintenant, la russophobie. Ou l'hostilité à la Russie, ou l'agression russe pour ceux qui veulent, enfin, j'en sais rien. Je lui disais, à mon avis, le Brexit, elle l'a pas négocié comme elle l'espérait, elle essaie de noyer le poisson... ce qui est tout à fait absurde, parce que le seul type qui... La Russie ne menace aucunement l'Angleterre. Le type qui menace le Royaume-Uni, c'est Barnier, avec son jeu sur la frontière irlandaise.
Mais finissez sur votre discussion.
Voilà. C'est, ouais. Mais donc, je disais, c'est pour noyer le poisson. Et puis Trump, il a constaté que chaque fois qu'il tire des missiles ou qu'il dit des choses anti-russes, le Washington Post et le New York Times lui lâchent un peu les baskets. Et Olivier me disait, oui, bon, peut-être, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que cette russophobie, cette fixation pathologique sur un pays qui n'a pas la puissance qu'on dit, est sincère chez les journalistes et certains ou la plupart des politiques occidentaux. Il y a quelque chose de sincère qui mérite d'être analysé. Et c'est une analyse que je n'arrive pas à faire. Je ne comprends pas cette fixation pathologique. Vous voyez, c'est ça qui est terrible pour un chercheur. Je veux dire, ça suggère la russophobie et tous ces trucs internationaux. Je ne le vois plus comme des... Si vous êtes du côté russe, vous êtes dans un univers de rapport, de force rationnelle et de maîtrise de soi.
Ce qui est clair, c'est que...
Et si vous êtes dans le camp occidental, vous êtes dans un univers de passion incontrôlée qui renvoie à des troubles psychiques que vous ne comprenez pas.
Ce qui est clair, Emmanuel Todd, c'est que pour vous, on est quand même à nouveau, ça s'appelle peut-être un changement de cycle, mais ça peut être un retour aussi, à nouveau dans une tension binaire, dans deux camps frontaux. Les États-Unis d'un côté, avec des alliés occidentaux, dites-vous, et la Russie de l'autre. On croyait quand même s'en être sorti de binarité. Or, depuis 10 minutes, vous ne nous parlez à nouveau que de cela.
Non, c'est pas moi, c'est la presse.
Vous, votre incompréhension, votre inquiétude,
par-delà, dites-vous. Moi, je rêverais d'avoir une décoration russe pour service rendu à la paix. Donc, c'est pas moi qui parle comme ça. Je pense que ce qui se passe quand même, c'est que si on essaye d'avancer vers une solution rationnelle, c'est que la réalité du problème du monde, il faut la chercher dans les pays les plus avancés. C'est-à-dire la Russie ne fait pas partie des plus avancés. La Russie est sur une position de reconstruction défensive. Elle ne fait pas l'histoire du monde. Elle est une puissance d'équilibre.
Ce n'est pas non plus l'Europe,
mais l'Europe est en crise. Rien ne marche. On a 10% de chômage. On vient de perdre la capacité de construire des chemins de fer. On a un déficit commercial épouvantable en France.
On a une bonne natalité en France, quand même.
Mais non, elle est en train de baisser. Macron va réussir, apparemment. Elle est en train de baisser. Voilà. Et puis, le monde anglo-saxon est dans une mutation. Il est encore dans un état intermédiaire. Il y a cette opposition. La Chine, elle doit faire face au protectionnisme américain. Là, on est dans la partie rationnelle, finalement. Et donc, j'essaie de voir ce que peut représenter rationnellement la Russie. Donc, il y a ce parti populaire et ce parti oligarchique dans toutes les démocraties occidentales. Le parti populaire est protectionniste. Il veut un État qui s'intéresse à la protection de ses citoyens, des nations qui se referment un peu sur elles-mêmes pour les protéger, en continuant à commercer raisonnablement. Et en fait, à l'insu de son plein gré, la Russie est peut-être devenue un modèle pour ces gens. C'est-à-dire que Poutine, le vrai défaut de Poutine, les Chinois, le Parti communiste chinois, la Chine est un régime policier, mais la Chine, le Parti communiste chinois, a mis sa force de travail au service du capitalisme occidental. Poutine, c'est le type qui a refusé de mettre les Russes sur le marché mondial du travail. Et de fait, la Russie devient peut-être, à l'insu de son plein gré, un modèle de développement autonome des nations et fascine le parti populaire. C'est peut-être là, on a un élément de rationalité.
On va continuer sur cette discussion avec vous, Emmanuel Todd, dans quelques instants, juste après la revue de la semaine par Mélanie Chalandron, 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et donc la revue de la semaine, bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Qui commence avec, bien sûr, cette opération militaire menée cette nuit en Syrie par les États-Unis et leurs alliés britanniques et français.
Oui, la menace de frappes aériennes sur la Syrie planait depuis plusieurs jours. Elle a été mise à exécution cette nuit, on en parlait longuement dans le journal. Le site du Monde ce matin a été un des premiers à fournir quelques détails sur l'opération, des frappes ciblées et une réponse directe à l'attaque chimique dans la Ghouta orientale. Ces dernières heures, rappelle le journal, la France et les États-Unis avaient affirmé avoir les preuves de la responsabilité du régime syrien. Il n'est pas question de lancer une grande attaque militaire, analysait le colonel Michel Goya pour le Figaro quelques heures avant les frappes. L'objectif n'est ni de renverser le régime, ni de changer le cours de la guerre, mais de mener une attaque punitive, précise-t-il. Il n'est pas question non plus de toucher aux Russes, explique l'ancien militaire. C'est pourtant bien la Russie que le président américain avait explicitement menacée. C'est il y a quelques jours. Il y avait comme un air de guerre froide cette semaine et la presse s'en était inquiétée. Entre Washington et Moscou, la situation pourrait déraper, prévenait déjà le Guardian dans un article à lire sur le site de Courrier International. Le journal britannique rappelait que c'est tout de même la première fois dans l'histoire contemporaine qu'un président américain menace directement la Russie, du jamais vu, même au temps de la crise des missiles de Cuba. Cette guerre, selon le Guardian, était vouée à, je cite, « dégénérer en crise planétaire ».
Et on poursuit avec un témoignage de la révolution syrienne, du moins ce qu'il en reste.
Elle s'appelle Dina, c'est une jeune femme de la région d'Idleb, dans le nord de la Syrie. Elle témoigne dans la revue Vacarme, dont le dernier numéro vient de sortir. Dina est une activiste, une révolutionnaire de la première heure. Les premières manifestations, je les ai attendues avec impatience, témoigne-t-elle. Bien avant 2011, je rêvais que l'on en finisse avec ce régime. Dina est aussi une jeune femme ordinaire qui étudiait pour son master de mathématiques à l'université, qui pensait se marier et fonder une famille. La révolution nous a pris beaucoup, explique-t-elle. Sur le plan personnel, elle a tué tous mes rêves. Et pourtant, Dina ne la regrette pas. Durant toutes ces années, elle est restée ma conviction, dit-elle. Elle a donné un but plus élevé dans nos vies, un but en commun avec tous les Syriens. Aujourd'hui, Dina vit toujours à Idleb, désormais contrôlée par Al-Nosra. Pour moi, Al-Nosra, c'est la même chose que Daesh, témoigne-t-elle. En tant que femme, elle ne peut plus sortir seule, elle doit se vêtir de noir et porter la baya. Le plus dur pour Dina, c'est de voir ceux qui étaient ses amis, ses alliés, ceux avec qui elle a participé aux premières manifestations de maintenant ses oppresseurs. Ce témoignage, c'est l'amertume de la révolution confisquée. Aujourd'hui, l'espoir de Dina, c'est que les combats cessent à défaut que le régime change.
Corée du Nord, Russie, Égypte, Turquie, on termine avec ces nouveaux dictateurs. Le journal Le 1 s'est intéressé à ces régimes où l'on a désormais des présidents à vie.
À première vue, rien de nouveau, écrit Laurent Grelsheimer. Un homme s'empare du pouvoir et ne veut plus le lâcher. Cela s'appelle une dictature et c'est vieux comme le monde. Sauf que nous assistons, selon le journal Le 1, à une sorte de génération nouvelle de dictateurs qui veulent, je cite, « sauver leur population des vices de la démocratie ». Dans leur discours, poursuit Grelsheimer, il est en permanence question de nous, de nos faiblesses, de nos indécisions, de nos lâchetés. C'est le point commun de ces régimes, le refus du modèle occidental. Mais il n'y a pas de dictature sans consentement, dénonce l'écrivain algérien Kamel Daoud, toujours dans Le 1, au moins d'une partie de la population. Alors, pour lutter contre ces mandats à vie en Russie, en Turquie, en Chine, il ne suffit pas de demander des élections, il faut casser ce consentement, écrit Kamel Daoud, faire la pédagogie de l'intérêt de tous dans un système de démocratie, démontrer par exemple que l'alternance n'est pas un signe de faiblesse, mais une garantie de liberté, car c'est bien du besoin de stabilité que se nourrissent les dictateurs, analyse l'écrivain, surtout dans le monde arabe. Al-Sisi en Égypte, Bouteflika en Algérie, ils se présentent comme les garants contre le risque d'une révolution à la Libye, à la tunisienne et surtout à la syrienne. C'est moi ou le chaos.
Une réaction, Emmanuel Todd.
J'étais très frappé, il y en aurait beaucoup surtout, mais par le témoignage sur la Syrie. Je voudrais essayer de suggérer qu'on ne nous dit pas la vérité sur la Syrie. Bon, Assad est un dictateur sanguinaire, ignoble, etc. Et on est censé agir, envoyer des pétards.
C'est quand même plus que des pétards, hein. Ça fait deux fois que vous dites pétards.
Non, mais je veux dire, l'effet militaire de ces tirs sera nul. Les missiles coûtent plus cher les cibles. Non, on a déjà vu. Vous me faites venir, je donne mon opinion.
Bien sûr, hein.
Voilà. Mais au-delà de ça, personne ne réfléchit sur les raisons de la victoire d'Assad. On dit toujours, c'est les Russes, c'est les Iraniens. Mais la vérité, c'est que la société syrienne, de départ, était très divisée. Au moment où la France est intervenue dans cette affaire, où François Hollande avait commencé à réclamer à corps et à cri le départ d'Assad, moi je faisais, vous savez, je fais de la cartographie, je suis anthropologue, et donc j'ai ma carte des systèmes familiaux, des cartes démographiques de la Syrie, donc j'ai la carte des régions où la fécondité est plus basse, où il y a moins de mariages entre cousins, où les femmes ne sont pas toutes enfermées, en fait, puisqu'il y a de grandes différences culturelles à travers la Syrie. Et puis je suis tombé sur une carte des zones tenues par le régime Assad et par les rebelles. Et les cartes, la carte des régions tenues par le régime Assad était la carte des régions, de toutes les régions, où le statut de la femme était le plus élevé. Et la carte des régions rebelles, c'était la carte des taux de patrie-localité à 99,99%, avec des taux de mariage entre cousins super élevés. Ça veut dire que nos alliés là-bas, en fait, culturellement, sont les plus loin de nous. C'est-à-dire que les gens, si on était sincère, si on agissait vraiment au nom de valeurs, comme on le dit, on se poserait ce genre de questions. La réalité de la victoire d'Assad, c'était pas simplement les régions alaouites. Les régions alaouites qui ont une parenté avec le chiisme, et c'est vrai que le chiisme encourage un statut de la femme plus élevé, ça donne des sociétés plus efficaces, etc. Mais c'est pas simplement ça. Il y a aussi des classes moyennes sunnites en Syrie qui soutiennent Assad. Personne ne réfléchit là-dessus. Personne. Et donc, vous voyez, vous parliez tout à l'heure dans ce témoignage, était à la fois désespéré et étonné de voir les alliés se transformer en ennemis. Mais c'est simplement parce que la rébellion était le fait des régions les plus antiféministes, les plus arriérées, les plus fermées. C'est comme la raison pour laquelle, si on réfléchit rationnellement, pourquoi est-ce que les Russes ont gagné cette guerre? Les Russes ont gagné cette guerre parce qu'ils ont pris les bons alliés sur le plan de la dynamique culturelle. Et que la vérité, c'est que tous nos alliés, à nous, occidentaux, là-bas, à commencer par l'Arabie Saoudite, sont les pays les plus loin de nous et les plus inefficaces en termes de dynamique éducative et culturelle. Alors, je dis pour ça, vous êtes confrontés à ces forces majeures, vous envoyez une centaine de missiles sur des bâtiments vides. Ouais, c'est pour ça que je reviens sur cette histoire. Il y a une sorte de disproportion entre la puissance des forces historiques et anthropologiques sur le terrain et ces actions militaires, on n'a plus de but. L'Occident est perdu.
Sur cette dérive autoritaire, y compris dans les démocraties libérales, Mélanie citait le journal Le 1 sur ses présidents à vie. Ça fait penser, Emmanuel Todd, à ce que vous écriviez d'ailleurs il y a 10 ans maintenant, après le communisme, c'est-à-dire cette post-démocratie. Oui. On y est dans la post-démocratie.
Oui, mais évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas...
C'est la fin d'une histoire commencée en 89.
Mais oui, il ne faut pas généraliser. Il y a une dynamique générale de l'histoire humaine, il y a une hausse des taux d'éducation, il y a une stagnation des taux d'éducation dans les pays les plus avancés. Mais on peut, par exemple, on ne peut pas dire la Russie et la Chine, c'est la même chose sur le plan de la dictature. La Chine a un régime de parti unique avec contrôle d'Internet, la police règne, il n'y a pas d'élection. Et la Russie, il y a des élections. Les démocraties occidentales, les trois grandes démocraties occidentales, il y a ce problème d'affrontement entre un parti populaire et un parti oligarchique, mais il y a des différences. Je veux dire, la France est le pays le plus fermé, où le monde populaire est le plus marginalisé, avec d'un côté Macron, représentant les éduqués, les riches, etc., et le Front National, représentant le monde populaire en perdition culturelle. Alors que dans les pays, en Angleterre, quand même, le Brexit a été accepté. Il y a une partie du Parti conservateur qui a accepté le vote populaire. Il faut accepter de rentrer dans la diversité du monde. On ne peut pas simplement faire des slogans en disant « il y a des gentils, c'est nous, il y a des méchants, c'est les autres ». C'est de ça que j'essaie de sortir.
Est-ce que je peux vous faire entendre un ancien président, le nôtre, l'ancien président de la République, François Hollande? Il était sur France Inter jeudi matin. Écoutez ce qu'il dit de l'avancée de l'histoire.
Moi, je fais partie d'une génération où la démocratie, elle était en mouvement et en progrès partout dans le monde, où le mur de Berlin s'est effondré, où les pays émergents aspiraient aussi à la liberté, à la démocratie.
On va y revenir.
C'est fini. Aujourd'hui, c'est pour l'instant arrêté. Et même dans notre pays, dans notre Europe, il y a ce recul. Et la presse, pour moi, elle est aussi menacée. Ce que je regrette, c'est que la presse elle-même ne se fasse pas respecter comme elle doit le faire. Mais sur sa place, sur son rôle, pas sur le bruit. Sur le bruit, la presse est très présente, mais sur sa conception de ce qu'est la démocratie.
Alors c'est moins sur la presse, on vous a entendu tout à l'heure, Emmanuel Todd, sur la presse. C'est moins sur la presse que sur l'évolution de cette démocratie.
Le Guardian que vous avez cité est en train de devenir complètement cinglé. Hein.
Emmanuel Todd, que sur cette évolution de la démocratie, avec notamment la réélection dimanche dernier de Viktor Orban en Hongrie, et ce qu'il est en train de faire, qu'il appelle une démocratie illibérale.
Oui, mais vous voyez, ce qui est choquant quand j'entends François Hollande, c'est qu'il parle de la démocratie, et il se posture, il se met dans la posture du type qui est du côté de la démocratie. Mais ça n'est pas vrai. C'est un européiste. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est un européiste.
Alors il faut se rendre compte sur ce qu'est la démocratie.
Eh bien, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le mot est là, tout le monde l'a dans la gueule, et on ne sait plus ce que c'est. Mais la France est un pays... Les gens croient que la démocratie, c'est quand on vote et qu'il y a une presse qui dit ce qu'elle veut.
C'est déjà pas mal.
Ça ne suffit pas. Une démocratie représentative, c'est les gens votent, des élites légitimes sont désignées qui appliquent les décisions populaires. Et ce qui est caractéristique de, entre guillemets, la démocratie française, c'est que si les gens votent et prennent des décisions qui ne plaisent pas aux élites, elles ne sont pas appliquées. Le moment où la France a cessé d'être une démocratie représentative au sens classique, c'est le référendum de 2005, où les Français ont voté non et les élites ont transféré ce non. Oui, l'Angleterre reste une démocratie parce que le Brexit est appliqué par le Parti conservateur. L'Amérique reste une démocratie, mais nous, on ne peut plus dire ça, vous voyez. Quant à la Hongrie, je vais vous dire, moi j'aime la Hongrie pour d'autres raisons. C'est dans un voyage en Hongrie que j'ai découvert la fin du communisme. Les Hongrois sont un peuple héroïque. C'est le seul pays qui a osé se lever contre la dictature soviétique en 1956. Ils ont été sauvagement réprimés et les Russes les ont respectés pour ça. C'est eux qui ont abattu le mur. C'est eux qui ont laissé passer les Allemands de l'Est.
C'est précisément pourquoi.
Oui, mais parce que
les Hongrois. Non, mais
l'une des valeurs. Et oui, mais il faut voir les choses correctement. Encore une fois, je ne dis pas qu'Orban est un type sympathique, mais je dis qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe et ne pas se raconter que tout est manipulé. J'ai l'impression que l'establishment est complotiste, en fait. Il y a des complots partout et personne ne veut voir pourquoi Orban est réélu. Je déteste sa campagne sur l'immigration, etc. Mais l'une des valeurs fondamentales de la Hongrie, que montre toute son histoire de 1848 à 1956 et 1989, les Hongrois sont un peuple patriote. La valeur nationale en Hongrie, c'est un pays qui survit, tout petit, qui survit au cœur de l'Europe centrale contre vents et marées, qui n'a pas envie que son territoire soit parcouru de vents incontrôlables et qui fait de son existence en tant que nation. Et alors, la preuve, et donc ça me donne envie de dire, mais si on ne comprend pas les Hongrois, pourquoi on ne les comprend pas? Parce que nous, on a des élites qui ne sont plus patriotes. Je veux dire, est-ce que j'irais jusqu'à dire que nous, on a des traîtres au pouvoir? Mais non, on a des gens qui veulent dépasser la nation, qui disent qu'on ne doit plus avoir de monnaie nationale, qui ne sont pas très clairs sur le respect des frontières nationales. Si vous voulez, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie de renverser les choses. La russophobie, la magyarophobie pour les Hongrois, etc. C'est, en fait, les gens qui en parlent ne connaissent rien à la Russie, ils ne connaissent rien à la Hongrie. Est-ce que les gens savent qu'il y a une partie de la tradition hongroise qui est calviniste, très importante, et que ça explique la dynamique de ce pays qui a eu trois cultures.
Comprendre ce qui s'y passe,
donc,
Emmanuel Todd nous permettrait de mieux réagir.
Quand on parle de la Russie, quand on parle de la Hongrie, en fait, on parle de nous et on parle de notre crise à nous et à notre déficit de valeurs spirituelles, à notre déficit de sentiment national. Sans sentiment national, il n'y a pas de projet. On est à la dérive. On devient agressif. On lance des missiles comme des couples qui se jettent des assiettes à la figure dans des cuisines parce qu'ils n'arrivent plus à se parler. On est dans l'irrationnel et l'émotionnel. Et je recommande à tout le monde la lecture des textes de Lavrov et de Poutine s'ils veulent lire des choses intelligentes sur la géopolitique.
Dans le texte et dans la langue.
Et je vous jure que ce matin, les exposés du Guardian, du Daily Telegraph et du Monde sur ce qui se passait étaient tellement mauvais que j'ai dû, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, j'ai dû aller sur le site de RT France, le truc russe, pour comprendre à peu près ce qui se passait en Syrie.
Et vous pensez avoir mieux compris ?
C'était beaucoup plus détaillé, il y avait toutes les informations qu'il y avait dans les autres, plus d'autres.
Bon, on voulait aussi vous parler de la situation en France, Emmanuel Todd. Vous reviendrez pour parler de la France, pour parler des grèves.
Je ne vais pas pouvoir dire mon soutien à la grève des cheminots.
Écoutez, si, bah voilà, vous l'avez fait. Si c'est juste pour nous
dire. Je peux vous dire ce qui va se passer s'ils perdent?
Allez.
Eh bien,
vous, voyez, vous avez 30 secondes pour le faire.
J'ai fait récemment une intervention devant une mutuelle sociale agricole. Donc j'ai découvert que la mise en instabilité, en insécurité par l'Europe des prix agricoles avait provoqué la poussée nationale, front national qu'on a constaté dans les milieux agricoles. Puisque flexibilité pour les gens, ça veut dire insécurité. Et je vous fais le pari que si on brise la SNCF, si on brise la CGT, on n'obtiendra aucune amélioration économique, mais que le réseau de chemin de fer français va devenir une zone ou un des axes de diffusion supplémentaire de l'influence du Front National en France.
Bon, tout le monde a bien entendu votre pari. On suit, Emmanuel Todd, on suit cela, mais pour l'instant, on passe à 8h46 sur France Culture à notre idée culture chaque samedi. Une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Et aujourd'hui, Mélanie Chalandon, vous avez rencontré une académicienne, écrivaine.
Oui, Danielle Salnave. Danielle Salnave qui publie L'Églantine et le Muguet tout récemment chez Gallimard. C'est un récit de voyage dans son enfance, dans sa région natale, l'Anjou, une France conservatrice et catholique. Et bien le choix dont elle nous parle ce matin, c'est aussi le souvenir d'un voyage, mais cette fois un voyage littéraire.
J'ai eu envie de vous faire partager une œuvre, non pas parce qu'elle est peu connue, mais surtout parce qu'elle est marquée d'un trait tout à fait particulier dans ma mémoire. Parce que je suis entrée dans ce livre, j'ai rencontré ce livre, de façon tout à fait inopinée, soudaine. J'avais environ 13 ou 14 ans, j'étais pensionnaire dans un lycée, j'étais à la ville d'Angers, près de mon village, et un jour, le professeur principal n'était pas là, on est allé à la bibliothèque, on a pris des livres, et moi j'ai pris Crime et Châtiment. Pourquoi, je ne me souviens plus. Je l'ai pris, j'ai commencé, et alors il s'est produit quelque chose d'inoubliable. J'avais été enlevée, arrachée au monde qui m'entourait, c'est-à-dire un internat d'un lycée de filles. Tout d'un coup, j'ai été transportée dans un monde dont j'avais au fond aucune idée. Il ne faut pas oublier quand même dans quel lieu se passe cette histoire. Il s'agit d'un jeune homme qui a des grandes idées, des grands projets d'avenir, mais aucun argent pour les réaliser. Et il se dit, mais si je détruisais une vie sans importance qui me procurerait l'argent dont j'ai besoin, l'humanité gagnerait puisque je pourrais réaliser de grands projets. Donc, il va se rendre chez une usurière, il va lui dérober ses bijoux, la tuer, et ensuite, bien évidemment, il n'aura jamais la force de supporter son crime. Ça m'a jeté dans un trouble total. Par un miracle, c'est-à-dire un livre, des mots sur une page, j'étais transportée totalement ailleurs. Je crois que j'ai compris à ce moment-là comment lire des livres, de la littérature, de la fiction, de la poésie, de l'histoire aussi, pouvait être porteur d'une charge à la fois visuelle, affective, émotive, et en même temps je me dis comment je me suis représenté tout cela. Je n'avais pas vraiment les éléments pour le nourrir, j'ai dû me fabriquer quelque chose, me fabriquer ce monde. C'est un dépaysement et en même temps une aventure incroyable parce qu'on entre dans la considération, dans l'intérêt pour un autre qui est vraiment autre. Il conçoit un crime et pourtant il est toujours dans notre humanité, il est toujours là. Pour moi, c'est pas du tout un monstre. Ce qu'il fait est monstrueux, mais la manière dont il est présenté, dont on entre dans son raisonnement, dont on le suit, je me souviens très bien de ces moments de fièvre où il se jette sur cette sorte de petit divan en cuir où on dort dans les appartements comme cela dans la Russie de l'époque et il est traversé de visions et tout. Ça me bouleversait. C'était comme une sorte de grand frère. Je pouvais rien pour lui, mais il était avec moi. Je n'étais pas tellement éloignée de lui. Et ça aussi, c'est bouleversant. Alors d'un seul coup, évidemment, mon idée de l'humanité, qui se limitait à mes vignobles ou aux versions latines au lycée, s'élargissait prodigieusement. J'étais loin, j'étais dépaysée, en même temps j'étais chez moi. Ce qui me marquait, c'est cette manière de cheminer avec son personnage et de nous emmener avec lui, de creuser ce chemin dans le personnage, dans ses actes, dans ses motivations, dans ses remords, dans ses refus, de nous aider à creuser le chemin dans l'âme d'un autre être humain. Alors là-dessus, Dostoïevski est absolument incomparable.
Vous voyez, Emmanuel Todd, la russophobie n'est pas partout.
Donc, je mais moi je suis plutôt Tolstoï. Pour moi, c'est Anna Karénine l'équivalent.
Non, Crime et châtiment.
Dostoïevski, j'ai jamais accroché. Je dois être trop bêta et trop gentillet, je sais pas. Mais par contre, Anna Karénine, et bien dans Tolstoï, les façons de mourir. Mais oui, la Russie a produit l'une des plus grandes littératures du monde. Non, mais si, c'est vous qui avez commencé. ça nous ramène à la question de l'intelligence russe.
C'est moi. Bon, restez avec nous pour la suite et la fin de ces matins du samedi. Nous accueillons à présent notre chroniqueur culinaire, confrère de Libération, Jackie Durand. Bonjour à vous, Jackie.
Bonjour, Caroline.
Vous allez nous parler d'ingrédients ordinaires pour repas extraordinaires. C'est un coup de foudre.
Oui, pour un livre, bien sûr. Rien que le titre est déjà magnifique. Il s'intitule « Le pain est d'or ». C'est publié aux éditions Feydon, qui produisent de très jolis livres de cuisine, entre autres. Il est signé par le chef italien Massimo Bottura et une pléiade d'autres tocs. Évidemment, vous l'avez dit, le sous-titre est appétissant comme un pain perdu, ingrédient ordinaire pour repas extraordinaire. Au départ de ce livre, il y a un constat extrêmement banal et très affligeant. Nous jetons à chaque seconde des tonnes de bouffe, alors que d'autres crèvent la dalle. Songez rien qu'en France, chaque année, 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont perdus ou gaspillés. Alors évidemment, on peut refaire le monde sur un coin de table après un bon gueuleton, mais c'est beaucoup plus utile de se mettre au fourneau pour nourrir les plus démunis comme le fait Bottura. En 2015, il a lancé son premier réfectoire à Milan à l'occasion de l'exposition universelle. Et il raconte cette aventure dans Le pain est d'or. Le principe, il est simple comme un bouillon de légumes. Nourrir les autres à partir d'invendus et de surplus alimentaires. Bottura, il dit « Je suis un chef italien » et j'ai appris à tirer par profit de tout, à ne rien jeter, pas même les miettes, les os ou les croûtes de fromage. Alors après Milan, Rio et Londres, cette star de la gastronomie mondialisée, il a installé son réfectoire à Paris, au foyer de la Madeleine, dans les cryptes de l'église. Tous les soirs, du lundi au vendredi, 100 repas sont servis aux plus démunis envoyés par des associations. Bottura dit « Nourrir la planète, ce n'est pas produire plus, c'est combattre le gaspillage. Comment le combattre ? Avec la beauté de l'imagination des chefs, des artistes. Avec la beauté, on va reconstruire la dignité de ceux qui viennent manger ici. »
Et donc, à Paris, le chef italien fait appel aussi à des chefs célèbres pour cuisiner dans ses réfectoires.
Oui, des chefs célèbres d'ailleurs qui ont déjà cuisiné dans ces réfectoires en Italie. On y trouve par exemple Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, Michel Troisgros, Alain Passard, des grandes toques étoilées qui sont invités à préparer les frichetis du réfectoire. Pour les recruter, Bottura leur a posé une question extrêmement simple mais tellement évidente. Ne serait-il pas passionnant de cuisiner pour des gens qui ne savent pas qui nous sommes ? Dans Le pain est d'or, on trouve ainsi les recettes imaginées par les chefs pour les réfectoires avec des ingrédients qui peuvent être beaux ou laids. Et Bottura lui-même dit qu'il a été surpris par la qualité des plats servis. C'est une vraie question qui est d'ailleurs transversale de tous nos métiers. Travailler hors de nos cuisines avec des ingrédients que l'on ne choisissait pas nous a obligés à aller au-delà de nos limites, à repenser nos compétences et le cycle de la nourriture. Et c'est vrai que l'on salive quand on découvre ces journées particulières avec des chefs étoilés qui vont comme ça au cul des camions des invendus. On voit Ducasse par exemple qui découvre une chambre froide où il se met à façonner des boulettes parce que ce jour-là il fait très très chaud à Milan et donc il s'installe dans le froid de la chambre froide. Il imagine ses boulettes avec des aubergines un peu talées comme ça, des fins de marché, qu'il fume et qu'il sert avec des pois chiches. Et en dessert, il présente une tarte au pain avec des fruits caramélisés. Elle est jolie, sa recette de tarte au pain. Vous voulez que je vous la raconte ?
Allez,
je vous raconte sa tarte.
On la mettra sur le site, bien sûr.
Ouais. Il vous faut 4 blancs d'œufs. Alors surtout, vous ne jetez pas les jaunes. Hein.
Jette rien, c'est le principe, on a compris. On recycle tout.
Non, les jaunes, vous ferez un sabayon ou de la glace avec. Il vous faut 150 g de sucre en poudre, 100 g de poudre d'amande, 50 centilitres de lait, 4 œufs, 200 g de fruits secs. Vous pouvez prendre des pignons de pain, des noisettes, ce que vous voulez. Vous les concassez. Du lait d'amande, 15 centilitres, 300 g de pain rassis. Après, c'est extrêmement simple. Vous montez les blancs en neige, Dans un grand saladier, vous mélangez le sucre, la poudre d'amande, le lait. Vous ajoutez les œufs entiers, les fruits secs, le lait d'amande. Vous ajoutez les blancs d'œufs. Vous mélangez tout ça tranquillement. Vous faites tremper votre pain rassis coupé en tranches dans ce mélange pendant 2 heures. Vous préchauffez votre four à 200 degrés, vous beurrez un plat à four, vous y déposez les tranches de pain, vous enfournez 20 minutes et vous servez cette forme entre guillemets de pain perdu avec par exemple une compote de saison. Et là, vous pouvez prendre des fruits moches, des fruits de fin de marché, des pommes, des poires.
Ceux qu'on s'apprête à jeter.
Et même, bon, elles arrivent un petit peu timidement en ce moment, quelques fraises si elles sont un peu talées, vous les mettez avec. Ah oui, mais quelquefois, dans une barquette de fraises, il y a des fraises un petit peu moches. Voilà, et c'est très très bon.
Oui, mais il faut attendre quand même la saison. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Todd, de tout ça, l'anti-gaspillage alimentaire, qu'on luttait contre l'exclusion sociale par la cuisine,
le fait que tout le monde puisse cuisiner. Vous allez dire que je suis un chercheur obsédé et qui mourra chercheur, mais ce qui m'a frappé, c'était l'idée que quand un chef était mis dans des conditions différentes, avec un matériau différent, donc il était forcé de partir en biais en dehors de sa zone de confort, il créait des trucs nouveaux. Et je me disais, oui, la recherche, c'est pareil. De temps en temps, c'est bien quand on vous force à travailler sur un sujet. Je pensais au livre que j'avais été forcé d'écrire pour survivre à des divorces financièrement. Et je me dis, qui avait donné des choses intéressantes parce que j'avais dû aller dans un domaine inhabituel. Je suis désolé.
Jackie a justement quelque chose à
surtout,
vous, à vous demander.
Ce qui est passionnant, c'est que dans ce livre, on voit des chefs qui ont un confort de travail, entre guillemets, très grand. Des chefs étoilés qui ont l'habitude à ce qu'on leur apporte les meilleurs produits et les plus beaux produits dans leur palace et leur restaurant 3 étoiles. Et là, effectivement, ils sont au cul du camion. Ils se retrouvent avec des choses qu'ils n'ont pas choisies. Et là, ils vont devoir faire l'effort, en quelques heures, d'imaginer quelque chose qui soit bon avec des produits qu'on a plutôt tendance à mépriser.
Oui, mais dans l'histoire des scientifiques, vous verrez que souvent des scientifiques trouvent des trucs parce qu'ils changent de domaine, en fait. Ils sortent de leur domaine de formation. Parce que la chimie à la biologie, des choses comme ça.
Et si on vous demande de sortir complètement de votre zone de confort, et si vous aviez été à la place de Jean-Jacques Bourdin et de Louis Plenel demain soir face à Emmanuel Macron, vous lui aurez posé quoi comme question? Une seule.
Ah non, j'écoute plus du tout ce que dit Macron. Il m'intéresse plus du tout.
Ah bon, bah alors, c'est raté.
Il est hors, il répète toujours la même chose. Il fait semblant d'être président parce qu'il n'a pas de vrai pouvoir, il ne contrôle pas la monnaie. Donc être président en France, c'est passer à la télé, si vous voulez. Et puis réduire les petits privilèges des petites gens et ne pas toucher aux privilèges des gens qui ont des gros privilèges. Donc je n'écoute plus Macron. Je n'écouterai pas, je n'ai pas écouté ça des trucs, et je n'écouterai pas
demain
son
soir.
Truc demain.
Mais vous avez, Emmanuel Todd, encore l'appétit d'écouter de la musique, et en particulier un groupe, le groupe America.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui.
Eh bien oui, c'est maintenant.
J'avais oublié, j'étais ému, j'avais oublié.
Eurose with no name.
Ah, oui,
c'est bien ça que vous avez choisi.
Oui, mais on va vérifier.
On va l'écouter alors.
Oui. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Et donc vous avez dit, Emmanuel Todd, que c'était l'image d'une marche vers une solitude où les agressions du monde extérieur disparaissent et que c'était très adapté à l'ambiance politique et géopolitique du moment. Merci beaucoup, Emmanuel Todd.
Mais je suis aussi content de terminer sur quelque chose qui rappelle que mon allégeance et mon cœur sont fondamentalement du côté du monde anglo-américain.
Allez, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Je vous rappelle que vous êtes invité à revenir à la Maison de la Radio ce soir à 20h au Studio 104 pour écouter le concert fiction Tigre en papier adapté du roman d'Olivier Rollin avec Eric Elmosnino et Annelise Hamburger, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. À revenir également demain pour assister en direct à l'émission L'Esprit Public d'Émilie Aubry et à nous écouter bien sûr ce week-end et la semaine prochaine dès lundi matin, dans les matins, Guillaume Erner recevra la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.